Chapitre 4. La maréchale était prête et l'attendait. « C'est gentil cela, » dit-elle, en fixant sur lui ses jolis yeux à la fois tendres et gais. Quand elle eut fait le nœud de sa capote, elle s'assit sur le divan et resta silencieuse. « Partons-nous, » dit Frédéric. Elle regarda la pendule. « Oh non, pas avant 1h30, » comme si elle eût posé en elle-même cette limite à son incertitude. Enfin, l'heure ayant sonné, « Eh bien, andiamo, caro mio !» Et elle donna un dernier tour à ses bandeaux, fit des recommandations à Delphine. « Madame revient dîner ? Pourquoi donc ? Nous dînerons ensemble quelque part au café anglais, où vous voudrez. Soit. » Ses petits chiens jappaient autour d'elle. « On peut les emmener, n'est-ce pas ?» Frédéric les porta lui-même jusqu'à la voiture. C'était une berline de louage avec deux chevaux de poste et un postillon. Il avait mis sur le siège de derrière son domestique. La maréchale parut satisfaite de ses prévenances. Puis, dès qu'elle fut assise, lui demanda s'il avait été chez Arnoux dernièrement. « Pas depuis un mois, » dit Frédéric. « Moi, je l'ai rencontré avant-hier. Il serait même venu aujourd'hui. Mais il a toutes sortes d'embarras. Encore un procès, je ne sais quoi. Quel drôle d'homme. Oui, très drôle. » Frédéric ajouta d'un air indifférent. « À propos, voyez-vous toujours, comment l'appelez-vous, cet ancien chanteur, Delmar ?» Elle répliqua sèchement, « Non, c'est fini. » Ainsi, la rupture était certaine. Frédéric en conçut de l'espoir. Ils descendirent au pâle quartier Bréda. Les rues, à cause du dimanche, étaient désertes et des figures de bourgeois apparaissaient derrière des fenêtres. La voiture prit un train plus rapide. Le bruit des roues faisait se retourner les passants. Le cuir de la capote rabattue brillait. Le domestique se cambrait la taille. Et les deux avanaient l'un près de l'autre semblaient deux manchons d'hermine posés sur les coussins. Frédéric se laissait aller au bercement des soupentes. La maréchale tournait la tête à droite et à gauche en souriant. Son chapeau de paille nacré avait une garniture de dentelle noire. Le capuchon de son burnous flottait au vent. Et elle s'abritait du soleil sous une ombrelle de satin lilas, pointue par le haut comme une pagode. « Quels amours de petits doigts !» dit Frédéric, en lui prenant doucement l'autre main. La gauche, ornée d'un bracelet d'or en forme de gourmette. « Tiens, c'est mignon, d'où cela vient-il » « Oh, il y a longtemps que je l'ai, » dit la maréchale. Le jeune homme n'objecta rien à cette réponse hypocrite. Il aima mieux profiter de la circonstance. Et lui tenant toujours le poignet, il appuya dessus ses lèvres, entre le gant et la manchette. « Finissez, on va nous voir. Bah, qu'est-ce que cela fait ?» Après la place de la Concorde, ils prirent par le quai de la Conférence et le quai de Billy, où l'on remarque un cèdre dans un jardin. Rosanette croyait le Liban situé en Chine. Elle rit elle-même de son ignorance et pria Frédéric de lui donner des leçons de géographie. Puis, laissant à droite le Trocadéro, ils traversèrent le pont d'Iéna et s'arrêtèrent enfin au milieu du Champ de Mars, près des autres voitures déjà rangées dans l'hippodrome. Les tertres de gazon étaient couverts de menus peuples. On apercevait des curieux sur le balcon de l'école militaire, et les deux pavillons en dehors du pesage, les deux tribunes comprises dans son enceinte, et une troisième devant celle du roi, se trouvaient remplis d'une foule en toilette qui témoignait, par son maintien, de la révérence pour ce divertissement encore nouveau. Le public des courses, plus spécial dans ce temps-là, avait un aspect moins vulgaire. C'était l'époque des sous-pieds, des collets de velours et des gants blancs. Les femmes, vêtues de couleurs brillantes, portaient des robes à taille longue et, assises sur les gradins des estrades, elles faisaient comme de grands massifs de fleurs, tachetés de noir, çà et là, par les sombres costumes des hommes. Mais tous les regards se tournaient vers le célèbre Algérien Boumaza, qui se tenait impassible entre deux officiers d'état-major dans une des tribunes particulières. Celle du Jockey Club contenait exclusivement des messieurs graves. Les plus enthousiastes s'était placé en bas contre la piste, défendue par deux lignes de bâtons supportant des cordes. Dans l'ovale immense que décrivait cette allée, des marchands de coco agitaient leurs crécelles, d'autres vendaient le programme des courses, d'autres criaient des cigares, un vaste bourdonnement s'élevait. Les gardes municipaux passaient et repassaient. Une cloche, suspendue à un poteau couvert de chiffres, tinta. Cinq chevaux parurent et on rentra dans les tribunes. Cependant, de gros nuages effleuraient de leur volute la cime des ormes en face. Rosanette avait peur de la pluie. « J'ai des riflards, » dit Frédéric, et tout ce qu'il faut pour se distraire, ajouta-t-il en soulevant le coffre, où il y avait des provisions de bouche dans un panier.
Bravo, nous nous comprenons.
Et on se comprendra encore mieux, n'est-ce pas?
Cela se pourrait, fit-elle en rougissant.
Les jockeys, en casaque de soie, tâchaient d'aligner leurs chevaux et les retenaient à deux mains. Quelqu'un abaissa un drapeau rouge. Alors, tous les cinq, se penchant sur les crinières, partirent. Ils restèrent d'abord serrés en une seule masse. Bientôt, elle s'allongea, se coupa. Celui qui portait la casaque jaune, au milieu du premier tour, faillit tomber. Longtemps il y eut de l'incertitude entre Philly et Tibby, puis Tom Pouce parut en tête. Mais Clubstick, en arrière depuis le départ, les rejoignit et arriva premier, battant Sir Charles de deux longueurs. Ce fut une surprise. On criait. Les baraques de planches vibraient sous les trépignements.
Nous nous amusons, dit la maréchale. Je t'aime, mon chéri.
Frédéric ne douta plus de son bonheur. Ce dernier mot de Rosanette le confirmait. À 100 pas de lui, dans un cabriolet Miller, une dame parut. Elle se penchait en dehors de la portière, puis se renfonçait vivement. Cela recommença plusieurs fois. Frédéric ne pouvait distinguer sa figure. Un soupçon le saisit. Il lui sembla que c'était Madame Arnoux. Impossible cependant, pourquoi serait-elle venue? Il descendit de voiture sous prétexte de flâner au pesage.
« Vous n'êtes guère galant, » dit Rosanette.
Il n'écouta rien et s'avança. Le Milord, tournant bride, se mit au trot. Frédéric, au même moment, fut happé par Sizi.
« Bonjour, cher. Comment allez-vous ? » ?»«
Hussonnet, là-bas. Écoutez donc. »
Frédéric tâchait de se dégager pour rejoindre le Milord. La maréchale lui faisait signe de retourner près d'elle. Sizi l'aperçut et voulait obstinément lui dire bonjour. Depuis que le deuil de sa grand-mère était fini, il réalisait son idéal, parvenait à avoir du cachet. Gilet écossais, habit court, large bouffette sur l'escarpin et carte d'entrée dans la ganse du chapeau, rien ne manquait effectivement à ce qu'il appelait lui-même son chic, un chic anglomane et mousquetaire. Il commença par se plaindre du Champ de Mars, turf exécrable, parla ensuite des courses de chantilly et des farces qu'on y faisait, jura qu'il pouvait boire 12 verres de vin de champagne pendant les 12 coups de minuit, proposa à la maréchale de parier, caressait doucement ses deux bichons, et de l'autre coude, s'appuyant sur la portière, il continuait à débiter les sottises, le pommeau de son stick dans la bouche, les jambes écartées, les reins tendus. Frédéric, à côté de lui, fumait, tout en cherchant à découvrir ce que le Milord était devenu. La cloche ayant tinté, Sizi s'en alla, au grand plaisir de Rosanette, qui l'ennuyait beaucoup, disait-elle. La seconde épreuve n'eut rien de particulier, la troisième non plus, sauf un homme qu'on emporta sur un brancard. La quatrième, où 8 chevaux disputèrent le prix de la ville, fut plus intéressante. Les spectateurs des tribunes avaient grimpé sur les bancs. Les autres, debout dans les voitures, suivaient avec des lorgnettes à la main l'évolution des jockeys. On les voyait filer comme des taches rouges, jaunes, blanches et bleues sur toute la longueur de la foule qui bordait le tour de l'hippodrome. De loin, leur vitesse n'avait pas l'air excessive. À l'autre bout du Champ de Mars, ils semblaient même se ralentir et ne plus avancer que par une sorte de glissement où les ventres des chevaux touchaient la terre sans que leurs jambes étendues pliassent. Mais revenant bien vite, ils grandissaient. Leur passage coupait le vent, le sol tremblait, les cailloux volaient. L'air, s'engouffrant dans les casaques des jockeys, les faisait palpiter comme des voiles. À grands coups de cravache, ils fouillaient leurs bêtes pour atteindre le poteau, c'était le but. On enlevait les chiffres, un autre était hissé. Et au milieu des applaudissements, le cheval victorieux se traînait jusqu'au pesage, tout couvert de sueur, les genoux raidis, l'encolure basse, tandis que son cavalier, comme agonisant sur sa selle, se tenait les côtes. Une contestation retarda le dernier départ. La foule qui s'ennuyait se répandit. Des groupes d'hommes causaient au bas des tribunes. Les propos étaient libres. Des femmes du monde partirent, scandalisées par le voisinage des lorettes. Il y avait aussi des illustrations de bals publics, des comédiennes du boulevard. Et ce n'étaient pas les plus belles qui recevaient le plus d'hommages. La vieille Georgine Aubert, celle qu'un vaudevilliste appelait le Louis XI de la prostitution, horriblement maquillée et poussant de temps à autre une espèce de rire pareil à un grognement, restait tout étendue dans sa longue calèche,
sous une palatine de martre comme en plein hiver, Madame de Romousseau, mise à la mode par son procès, trônait sur le siège d'un break en compagnie d'Américains, et Thérèse Bachelu, avec son air de vierge gothique, emplissait de ses douces falbalas l'intérieur d'un escargot qui avait, à la place du tablier, une jardinière pleine de roses. La maréchale fut jalouse de ses gloires. Pour qu'on la remarquât, elle se mit à faire de grands gestes et à parler très haut. Des gentlemen la reconnurent, lui envoyèrent des saluts. Elle y répondait en disant leur nom à Frédéric. C'étaient tous comtes, vicomtes, ducs et marquis. Ils se rengorgeaient, car tous les yeux exprimaient un certain respect pour sa bonne fortune. Sisi n'avait pas l'air moins heureux dans le cercle d'hommes mûrs qui l'entouraient. Ils souriaient du haut de leurs cravates, comme se moquant de lui. Enfin, il tapa dans la main du plus vieux et s'avança vers la maréchale. Elle mangeait avec une gloutonnerie affectée une tranche de foie gras. Frédéric, par obéissance, l'imitait, en tenant une bouteille de vin sur ses genoux. Le milord reparut. C'était Madame Arnoux. Elle pâlit extraordinairement. « Donne-moi du champagne, » dit Rosanette. Et levant le plus haut possible son verre rempli, elle s'écria. « Ohé, là-bas, les femmes honnêtes, l'épouse de mon protecteur, ohé !» Des rires éclatèrent autour d'elle. Le milord disparut. Frédéric la tirait par sa robe. Il allait s'emporter. Mais Sisi était là, dans la même attitude que tout à l'heure. Et avec un surcroît d'aplomb, il invita Rosanette à dîner pour le soir même. « Impossible, » répondit-elle. « Nous allons ensemble au café anglais. » Frédéric, comme s'il n'eût rien entendu, demeura muet, et Sisi quitta la maréchale d'un air désappointé. Tandis qu'il lui parlait, debout contre la portière de droite, Hussonnet était survenu du côté gauche et relevant ce mot de café anglais. « C'est un joli établissement. Si l'on y cassait une croûte, hein ?»« Comme vous voudrez, » dit Frédéric, qui, affaissé dans le coin de la berline, regardait à l'horizon le milord disparaître, sentant qu'une chose irréparable venait de se faire et qu'il avait perdu son grand amour. Et l'autre était là, près de lui, l'amour joyeux et facile, mais, lassé, plein de désirs contradictoires, et ne sachant même plus ce qu'il voulait, il éprouvait une tristesse démesurée, une envie de mourir. Un grand bruit de pas et de voix lui fit relever la tête. Les gamins, enjambant les cordes de la piste, venaient regarder les tribunes. On s'en allait. Quelques gouttes de pluie tombèrent. L'embarras des voitures augmenta. Hussonnet était perdu. « Eh bien, tant mieux, » dit Frédéric. « On préfère être seul, » reprit la maréchale en posant la main sur la sienne. Alors passa devant eux, avec des miroitements de cuivre et d'acier, un splendide landau attelé de 4 chevaux conduit à la Daumont par 2 jockeys en veste de velours à crépine d'or. Madame d'Ambreuse était près de son mari, Martinon sur l'autre banquette en face. Tous les trois avaient des figures étonnées. « Ils m'ont reconnu, » se dit Frédéric. Rosanette voulut qu'on arrêtât pour mieux voir le défilé. Madame Arnoux pouvait reparaître. Il cria au postillon « va donc, en avant !» Et la berline se lança vers les Champs-Élysées, au milieu des autres voitures, calèche, briska, Wörth, tandem, Tilbury, dog-cart, tapissière à rideaux de cuir où chantaient des ouvriers en goguette, demi-fortune que dirigeaient avec prudence des pères de famille eux-mêmes. Dans des victorias bourrées de monde, quelques garçons assis sur les pieds des autres laissaient pendre en dehors ses 2 jambes. 2 grands coupés à siège de drap promenaient des douairières qui sommeillaient. Ou bien un stepper magnifique passait, emportant une chaise, simple et coquette comme l'habit noir d'un dandy. L'averse cependant redoublait. On tirait les parapluies, les parasols, les mackintosh. On se criait de loin. « Bonjour, ça va bien ?»« Oui ?»« Non ?»« À tantôt ?» Et les figures se succédaient avec une vitesse d'ombre chinoise. Frédéric et Rosanette ne se parlaient pas, éprouvant une sorte d'hébétude à voir auprès d'eux, continuellement, toutes ces roues tournées. Par moments, les files de voitures, trop pressées, s'arrêtaient tout à la fois sur plusieurs lignes. Alors, on restait les uns près des autres, et l'on s'examinait. Du bord des panneaux armoriés, des regards indifférents tombaient sur la foule. Des yeux pleins d'envie brillaient au fond des fiacres. Des sourires de dénigrement répondaient aux ports de tête orgueilleux. Des bouches grandes ouvertes exprimaient des admirations imbéciles, et ça et là, quelques flâneurs, au milieu de la voie, se rejetaient en arrière d'un bond pour éviter un cavalier qui galopait entre les voitures et parvenait à en sortir. Puis tout se remettait en mouvement. Les cochers lâchaient les rênes, abaissaient leurs longs fouets. Les chevaux animés, secouant leurs gourmettes, jetaient de l'écume autour d'eux. Et les croupes et les harnais humides fumaient dans la vapeur d'eau que le soleil couchant traversait. Passant sous l'arc de triomphe, il allongeait à hauteur d'homme une lumière roussâtre qui faisait étinceler les moyeux des roues, les poignées des portières, le bout des timons, les anneaux des sellettes, et sur les deux côtés de la grande avenue, pareil à un fleuve où ondulaient des crinières, des vêtements, des têtes humaines, les arbres tout reluisants de pluie se dressaient comme de murailles vertes. Le bleu du ciel au-dessus, reparaissant à de certaines places, avait des douceurs de satin. Alors Frédéric se rappela les jours déjà loin, où il enviait l'inexprimable bonheur de se trouver dans une de ses voitures, à côté d'une de ses femmes. Il le possédait, ce bonheur-là, et n'en était pas plus joyeux. La pluie avait fini de tomber. Les passants, réfugiés entre les colonnes du garde-meuble, s'en allaient. Des promeneurs, dans la rue Royale, remontaient vers le boulevard. Devant l'hôtel des affaires étrangères, une file de badauds stationnait sur les marches. À la hauteur des bains chinois, comme il y avait des trous dans le pavé, la berline se ralentit. Un homme en paletot-noisette marchait au bord du trottoir. Une éclaboussure, jaillissant de dessous les ressorts, s'étala dans son dos. L'homme se retourna, furieux. Frédéric devint pâle. Il avait reconnu des lauriers. À la porte du café anglais, il renvoya la voiture. Rosanette était montée devant lui pendant qu'il payait le postillon. Il la retrouva dans l'escalier, causant avec un monsieur. Frédéric prit son bras, mais au milieu du corridor, un deuxième seigneur l'arrêta. « Va toujours, » dit-elle, « je suis à toi. » Et il entra seul dans le cabinet. Par les deux fenêtres ouvertes, on apercevait du monde aux croisées des autres maisons vis-à-vis. De larges moires frissonnaient sur l'asphalte qui séchait, et un magnolia posé au bord du balcon embaumait l'appartement. Ce parfum et cette fraîcheur détendirent ses nerfs. Il s'affaissa sur le divan rouge au-dessous de la glace. La maréchale revint, et le baisant au front. « On a des chagrins, pauvre Mimi. »« Peut-être, » répliqua-t-il. « Tu n'es pas le seul, va. » Ce qui voulait dire « Oublions chacun les nôtres dans une félicité commune. » Puis elle posa un pétale de fleurs entre ses lèvres et le lui tendit à becqueter. Ce mouvement, d'une grâce et presque d'une mansuétude lascive, attendrit Frédéric. « Pourquoi me fais-tu de la peine ?» dit-il en songeant à Madame Arnoux. « Moi, de la peine ?» Et debout devant lui, elle le regardait, les cils rapprochés et les deux mains sur les épaules. Toute sa vertu, toute sa rancune sombra dans une lâcheté sans fond. Il reprit. « Puisque tu ne veux pas m'aimer, » en l'attirant sur ses genoux. Elle se laissait faire. Il lui entourait la taille à deux bras. Le pétillement de sa robe de soie l'enflammait. « Où sont-ils ? » dit la voix du sonnet dans le corridor. Le maréchal se leva brusquement et alla se mettre à l'autre bout du cabinet tournant le dos à la porte. Elle demanda des huîtres et ils s'attablèrent. Hussonnet ne fut pas drôle. À force d'écrire quotidiennement sur toutes sortes de sujets, de lire beaucoup de journaux, d'entendre beaucoup de discussions et d'émettre des paradoxes pour éblouir, il avait fini par perdre la notion exacte des choses, s'aveuglant lui-même avec ses faibles pétards. Les embarras d'une vie légère autrefois, mais à présent difficile, l'entretenait dans une agitation perpétuelle, et son impuissance, qu'il ne voulait pas s'avouer, le rendait hargneux, sarcastique. À propos d'Ozaï, un ballet nouveau, il fit une sortie à fond contre la danse et à propos de la danse, contre l'opéra, puis, à propos de l'opéra, contre les Italiens, remplacés maintenant par une troupe d'acteurs espagnols, comme si l'on n'était pas rassasié des Castilles. Frédéric fut choqué dans son amour romantique de l'Espagne, et afin de rompre la conversation, il s'informa du Collège de France, dont l'on venait d'exclure Edgar Quinet et Mickiewicz. Mais Hussonnet, admirateur de M. de Maistre, se déclara pour l'autorité et le spiritualisme. Il doutait cependant des faits les mieux prouvés, niait l'histoire, et contestait les choses les plus positives jusqu'à s'écrier au mot géométrie. Quelle blague que la géométrie! Le tout entremêlé d'imitations d'acteurs. Saint-Ville était particulièrement son modèle. Ces calombres d'haine assommaient Frédéric. Dans un mouvement d'impatience, il attrapa, avec sa botte, un des bichons sous la table. Tous deux se mirent à aboyer d'une façon odieuse. « Vous devriez les faire reconduire, » dit-il brusquement. Rosanette n'avait confiance en personne. Alors il se tourna vers le bohème.
« Voyons, Hussonnet, dévouez-vous. »« Oh oui, mon petit, ce serait bien aimable. »
Hussonnet s'en alla, sans se faire prier. De quelle manière payait-on sa complaisance? Frédéric n'y pensa pas. Il commençait même à se réjouir du tête-à-tête lorsqu'un garçon entra.
« Madame, quelqu'un vous demande. »«
Comment, encore ?»«
Il faut pourtant que je voie, » dit Rosanette.
Il en avait soif, besoin. Cette disparition lui semblait une forfaiture. Presque une grossièreté. Que voulait-elle donc? N'était-ce pas assez d'avoir outragé Madame Arnoux? Tant pis pour celle-là, du reste. Maintenant, il haïssait toutes les femmes, et des pleurs l'étouffaient, car son amour était méconnu et sa concupiscence trompée. La maréchale entra, et lui présentant Sizi.
J'invitais monsieur. J'ai bien fait, n'est-ce pas?
Comment donc, certainement? Frédéric, avec un sourire de supplicié, fit signe au gentilhomme de s'asseoir. La maréchale se mit à parcourir la carte en s'arrêtant au nom bizarre.
Si nous mangeons, je suppose, un turban de lapin à la Richelieu et un pudding à la d'Orléans?
Oh, pas d'Orléans, s'écria Sizi, lequel était légitimiste et crut faire un mot.
Aimez-vous mieux un turbo à la Chambord? Reprit-elle.
Cette politesse choqua Frédéric.
La maréchale se décida pour un simple tourne d'eau, des écrevisses, des truffes, une salade d'ananas, des sorbets à la vanille.
Nous verrons ensuite.
Allez toujours. Ah, j'oubliais. Apportez-moi un saucisson, pas à l'ail.
Et elle appelait le garçon, jeune homme, frappait son verre avec son couteau, jetait au plafond la mie de son pain. Elle voulut boire tout de suite du vin de Bourgogne.
On n'en prend pas dès le commencement, dit Frédéric.
Cela se faisait quelquefois, suivant le vicomte.
Eh non, jamais.
Si fait, je vous assure.
Ah, tu vois?
Le regard dont elle accompagna cette phrase signifiait « C'est un homme riche, celui-là, écoute-le. » Cependant, la porte s'ouvrait à chaque minute, les garçons glapissaient, et sur un infernal piano, dans le cabinet à côté, quelqu'un tapait une valse. Puis les cours s'amenèrent à parler d'équitation et des deux systèmes rivaux. Sizi défendait Baucher, Frédéric le comte d'Or, quand Rosanette haussa les épaules.
« Assez, mon Dieu, il s'y connaît mieux que toi, va !»
Elle mordait dans une grenade, le coude posé sur la table. Les bougies du candélabre devant elle tremblaient au vent. Cette lumière blanche pénétrait sa peau de ton nacré, mettait du rose à ses paupières, faisait briller les globes de ses yeux. La rougeur du fruit se confondait avec la pourpre de ses lèvres, ses narines minces battaient, et toute sa personne avait quelque chose d'insolent, d'ivre et de noyé qui exaspérait Frédéric. Et pourtant, lui jetait au cœur des désirs fous. Puis il demanda, d'une voix calme, à qui appartenait ce grand landau avec une livrée marron.
« À la comtesse d'Ambreuse, » répliqua Sizi.
« Ils sont très riches, n'est-ce pas ?»«
Oh, très riches,
bien que Madame d'Ambreuse, qui est tout simplement une demoiselle Boutron, la fille d'un préfet, ait une fortune médiocre. » Son mari, au contraire, devait recueillir plusieurs héritages. Sizi les énuméra, fréquentant les d'Ambreuse. Il savait leur histoire. Frédéric, pour lui être désagréable, s'entêta à le contredire. Il soutint que Madame d'Ambreuse s'appelait de Boutron, certifiait sa noblesse.
« N'importe, je voudrais bien voir son équipage, » dit la maréchale, en se renversant sur le fauteuil.
Et la manche de sa robe, glissant un peu, découvrit à son poignet gauche un bracelet orné de trois opales. Frédéric l'aperçut.
« Tiens, mais... »
Ils se considérèrent tous les trois et rougirent. La porte s'entrebâilla discrètement, le bord d'un chapeau parut, puis le profil du sonnet.
« Excusez si je vous dérange, les amoureux. »
Mais il s'arrêta, étonné de voir Sizi et de ce que Sizi avait pris sa place. On apporta un autre couvert, et comme il avait grand faim, il empoignait au hasard, parmi les restes du dîner, de la viande dans un plat, un fruit dans une corbeille, buvait d'une main, se servait de l'autre, tout en racontant sa mission. Les deux toutous étaient reconduits. Rien de neuf au domicile. Il avait trouvé la cuisinière avec un soldat, histoire fausse, uniquement inventée pour produire de l'effet. La maréchale décrocha de la patère sa capote. Frédéric se précipita sur la sonnette en criant de loin au garçon.
« Une voiture !»«
J'ai la mienne !»
dit le vicomte.
« Mais, monsieur... »«
Cependant, monsieur... » Et ils se regardèrent dans les prunelles, pâles tous les deux et les mains tremblantes. Enfin, la maréchale prit le bras de Sizi et en montrant le bohème attablé.
« Soignez-le donc, il étouffe. »« Je ne voudrais pas que son dévouement pour mes roquets le fît mourir. »
La porte retomba.
« Eh bien ?» dit Hussonnet.
« Eh bien quoi ?
Je croyais... Qu'est-ce que vous croyez ? Est-ce que vous ne... » Il compléta sa phrase par un geste.
« Eh non, jamais de la vie !»
Hussonnet n'insista pas davantage. Il avait eu un but en s'invitant à dîner. Son journal, qui ne s'appelait plus l'art mais le flambard, avec cette épigraphe, « Canonnier à vos pièces », ne prospérant nullement. Il avait envie de le transformer en une revue hebdomadaire, seul, sans le secours de Deslauriers. Il reparla de l'ancien projet et exposa son plan nouveau. Frédéric, ne comprenant pas sans doute, répondit par des choses vagues. Hussonnet empoigna plusieurs cigares sur la table et dit « Adieu, mon bon », et disparut. Frédéric demanda la note. Elle était longue, et le garçon, la serviette sous le bras, attendait son argent quand un autre, un individu blafard qui ressemblait à Martinon, vint lui dire « Faites excuse, on a oublié au comptoir de porter le fiacre. » «
Quel fiacre ?»«
Celui que ce monsieur a pris tantôt pour les petits chiens. » Et la figure du garçon s'allongea, comme s'il eût plaint le pauvre jeune homme. Frédéric eut envie de le gifler. Il donna de pourboire les 20 francs qu'on lui rendait.
« Merci, monseigneur, » dit l'homme à la serviette avec un grand salut.
Frédéric passa la journée du lendemain à ruminer sa colère et son humiliation. Il se reprochait de n'avoir pas souffleté Sisi. Quant à la maréchale, il se jura de ne plus la revoir. D'autres aussi belles ne manquaient pas, et puisqu'il fallait de l'argent pour posséder ces femmes-là, il jouerait à la bourse le prix de sa ferme. Il sera riche. Il écraserait de son luxe la maréchale et tout le monde. Le soir venu, il s'étonna de n'avoir pas songé à Madame Arnoux. Tant mieux, à quoi bon ? Le surlendemain, dès 8 heures, Pellerin va lui faire visite. Il commença par des admirations sur le mobilier, des cajoleries, puis brusquement. « Vous étiez aux courses dimanche ?»«
Oui, hélas. »
Alors le peintre déclama contre l'anatomie des chevaux anglais, vanta les chevaux de Géricault, les chevaux du Parthénon. « Rosanette était avec vous ?» Et il entama son éloge adroitement. La froideur de Frédéric le décontenança. Il ne savait comment en venir au portrait. Sa première intention avait été de faire un Titien, mais peu à peu, la coloration variée de son modèle l'avait séduit. Il avait travaillé franchement, accumulant pâte sur pâte et lumière sur lumière. Rosanette fut enchantée d'abord. Ses rendez-vous avec Delmar avaient interrompu les séances et laissé à Pellerin tout le temps de s'éblouir. Puis, l'admiration s'apaisant, il s'était demandé si sa peinture ne manquait point de grandeur. Il avait été revoir les Titiens, avait compris la distance, reconnu sa faute, et il s'était mis à repasser ses contours simplement. Ensuite, il avait cherché, en les rongeant, à y perdre, à y mêler les tons de la tête et ceux des fonds, et la figure avait pris de la consistance, les ombres de la vigueur, tout paraissait plus ferme. Enfin, la maréchale était revenue. Elle s'était même permis des objections. L'artiste, naturellement, avait persévéré. Après de grandes fureurs contre sa sottise, il s'était dit qu'elle pouvait avoir raison. Alors avait commencé l'ère des doutes, tiraillement de la pensée qui provoquèrent les crampes d'estomac, les insomnies, la fièvre, le dégoût de soi-même. Il avait eu le courage de faire des retouches, mais sans cœur et sentant que sa besogne était mauvaise. Il se plaignit seulement d'avoir été refusé au salon, puis reprocha à Frédéric de ne pas être venu voir le portrait de la maréchale. « Je me moque bien de la maréchale !» Une déclaration pareille l'enhardit. Croyez-vous que cette bête-là n'en veut plus maintenant ? Ce qu'il ne disait point, c'est qu'il avait réclamé d'elle 1000 écus. Or, la maréchale s'était peu souciée de savoir qui paierait, et préférant tirer d'Arnoux des choses plus urgentes, ne lui en avait même pas parlé. « Eh bien, et Arnoux ?» dit Frédéric. Elle l'avait relancé vers lui. L'ancien marchand de tableaux n'avait que faire du portrait. Il soutient que ça appartient à Rosanette. En effet, c'est à elle.
Comment ?
C'est elle qui m'envoie vers vous, répliqua Pellerin. S'il eût cru à l'excellence de son œuvre, il n'eût pas songé peut-être à l'exploiter. Mais une somme, et une somme considérable, serait un démenti à la critique, un raffermissement pour lui-même. Frédéric, afin de s'en délivrer, s'enquit de ses conditions courtoisement. L'extravagance du chiffre le révolta. Il répondit :
Non, ah non !
« Vous êtes pourtant son amant, c'est vous qui m'avez fait la commande. »«
J'étais l'intermédiaire, permettez. »«
Mais je ne peux pas rester avec ça sur les bras. »« L'artiste s'emportait. Ah, je ne vous croyais pas si cupide.
Ni vous si avare, serviteur.
Il venait de partir que Sénécal se présenta. Frédéric, troublé, eut un mouvement d'inquiétude. Qu'y a-t-il ? Sénécal conta son histoire. Samedi, vers 9 heures, Madame Arnoux a reçu une lettre qui l'appelait à Paris. Comme personne par hasard ne se trouvait là pour aller à Creil chercher une voiture, elle avait envie de m'y faire aller moi-même. J'ai refusé, car ça ne rentre pas dans mes fonctions. Elle est partie et est revenue dimanche soir. Hier matin, Arnoux tombe à la fabrique. La Bordelaise s'est plainte. Je ne sais pas ce qui se passe entre eux, mais il a levé son amende devant tout le monde. Nous avons échangé des paroles vives. Bref, il m'a donné mon compte et me voilà. Puis, détachant ses paroles, « Au reste, je ne me repens pas, j'ai fait mon devoir. N'importe, c'est à cause de vous.
Comment ?»
s'écria Frédéric, ayant peur que Sénécal ne l'eût deviné. Sénécal n'avait rien deviné car il reprit. « C'est-à-dire que sans vous, j'aurais peut-être trouvé mieux. » Frédéric fut saisi d'une espèce de remords. « En quoi puis-je vous servir maintenant ?» Sénécal demandait un emploi quelconque, une place. « Cela vous est facile, vous connaissez tant de monde. » Monsieur Nombreuse, entre autres, à ce que m'a dit Deslauriers. Ce rappel de Deslauriers fut désagréable à son ami. Il ne se souciait guère de retourner chez les Nombreuses depuis la rencontre du Champ de Mars. Je ne suis pas suffisamment intime dans la maison pour recommander quelqu'un. Le démocrate essuya ce refus stoïquement, et après une minute de silence. Tout cela, j'en suis sûr, vient de la Bordelaise et aussi de votre Madame Arnoux. Ce vôtre ôta du cœur de Frédéric le peu de bon vouloir qu'il gardait. Par délicatesse, cependant, il atteignit la clé de son secrétaire. Sénécal le prévint. « Merci. » Puis, oubliant ses misères, il parla des choses de la patrie. Les croix d'honneur prodiguées à la fête du roi, un changement de cabinet, les affaires Drouillard et Beigné, scandale de l'époque, déclama contre les bourgeois et prédit une révolution. Un crin japonais, suspendu contre le mur, arrêta ses yeux. Il le prit, en essaya le manche, puis le rejeta sur le canapé avec un air de dégoût. « Allons, adieu, il faut que j'aille à Notre-Dame-de-Lorette. Tiens, pourquoi ?»« C'est aujourd'hui le service anniversaire de Godefroy Cavagnac. Il est mort à l'œuvre, celui-là. Mais tout n'est pas fini, qui sait ?» Et Sénécal tendit sa main gravement. « Nous ne nous reverrons peut-être jamais. Adieu. » Cet adieu, répété 2 fois, son froncement de sourcils en contemplant le poignard, sa résignation et son air solennel, surtout, fit rêver Frédéric, qui bientôt n'y pensa plus. Dans la même semaine, son notaire du Havre lui envoya le prix de sa ferme, 174 000 francs. Il en fit 2 parts, plaça la première sur l'État, et alla porter la seconde chez un agent de change pour la risquer à la bourse. Il mangeait dans les cabarets à la mode, fréquentait les théâtres et tâchait de se distraire quand Hussonnet lui adressa une lettre où il narrait gaiement que le maréchal, dès le lendemain des courses, avait congédié Sisy. Frédéric en fut heureux, sans chercher pourquoi le bohème lui apprenait cette aventure. Le hasard voulut qu'il rencontrât Sisy 3 jours après. Le gentilhomme fit bonne contenance et l'invita même à dîner pour le mercredi suivant. Frédéric, le matin de ce jour-là, reçut une notification d'huissier où M. Charles Jean-Baptiste Audry lui apprenait qu'au terme d'un jugement du tribunal, il s'était rendu acquéreur d'une propriété sise à Belleville, appartenant au sieur Jacques Arnoux, et qu'il était prêt à payer les 223 000 francs, montant du prix de la vente. Mais il résultait du même acte que la somme des hypothèques dont l'immeuble était grevé dépassant le prix de l'acquisition, la créance de Frédéric se trouvait complètement perdue. Tout le mal venait de n'avoir pas renouvelé en temps utile une inscription hypothécaire. Arnoux s'était chargé de cette démarche et l'avait ensuite oubliée. Frédéric s'emporta contre lui, et quand sa colère fut passée, « Eh bien après, quoi ? Si cela peut le sauver, tant mieux, je ne mourrai pas, n'y pensons plus. » Mais en remuant ses paperasses sur sa table, il rencontra la lettre de Hussonnet et aperçut le post-scriptum, qu'il n'avait point remarqué la première fois. Le bohème demandait 5 000 francs, tout juste, pour mettre l'affaire du journal en train. « Ah, celui-là m'embête !» Et il le refusa brutalement dans un billet laconique, après quoi il s'habilla pour se rendre à la Maison d'Or. Sisy présenta ses convives, en commençant par le plus respectable, un gros monsieur à cheveux blancs. « Le marquis Gilbert des Aunais, mon parrain. Monsieur Anselme
de Fourchambeau, dit-il ensuite. C'était un jeune homme blond et fluet, déjà chauve. Puis, désignant un quadragénaire d'allure simple, « Joseph Beaufre, mon cousin. Et voici mon ancien professeur, M. Vezou, personnage moitié charretier, moitié séminariste, avec deux gros favoris et une longue redingote boutonnée dans le bas par un seul bouton, de manière à faire châle sur la poitrine. » Sizi attendait encore quelqu'un, le baron de Comin, qui peut-être viendra, ce n'est pas sûr. Il sortait à chaque minute, paraissait inquiet. Enfin, à 8 heures, on passa dans une salle éclairée magnifiquement et trop spacieuse pour le nombre des convives. Sizi l'avait choisi par pompe tout exprès. Un surtout de vermeil, chargé de fleurs et de fruits, occupait le milieu de la table, couverte de plats d'argent, suivant la vieille mode française. Des raviers, pleins de salaisons et d'épices, formaient bordure tout autour. Des cruches de vin rosa frappées de glace se dressaient de distance en distance. 5 verres de hauteurs différentes étaient alignés devant chaque assiette, avec des choses dont on ne savait pas l'usage, 1000 ustensiles de bouche ingénieux. Et il y avait, rien que pour le premier service, une hure d'esturgeon mouillé de champagne, un jambon d'York au toquet, des grives au gratin, des cailles rôties, un vol-au-vent béchamel, un sauté de perdrix rouge, et aux deux bouts de tout cela, des effilés de pommes de terre qui étaient mêlés à des truffes. Un lustre et des girandoles illuminaient l'appartement tendu de damas rouge. 4 domestiques en habit noir se tenaient derrière les fauteuils de maroquin. À ce spectacle, les convives se récrièrent, le précepteur surtout. « Notre amphitryon, ma parole, a fait de véritables folies. C'est trop beau. »« Ça, » dit le vicomte de Sizi, « allons donc. » Et dès la première cuillerée, « Eh bien, mon vieux Désonnet, avez-vous été au Palais-Royal, voir père et portier ?»« Tu sais bien que je n'ai pas le temps, » répliqua le marquis. Ses matinées étaient prises par un cours d'arboriculture, ses soirées par le cercle agricole, et toutes ses après-midi par des études dans les fabriques d'instruments aratoires. Habitant la Saintonge, les 3/4 de l'année, et il profitait de ses voyages dans la capitale pour s'instruire, et son chapeau à large bord, posé sur une console, était plein de brochures. Mais Sizi, s'apercevant que M. de Fourchambault refusait du vin, « Buvez donc, sa prolote. Vous n'êtes pas crâne pour votre dernier repas de garçon. » À ce mot, tous s'inclinèrent, on le congratulait. « Et la jeune personne, dit le précepteur, est charmante, j'en suis sûr. » « Parbleu, s'écria Sizi. N'importe, il a tort, c'est si bête, le mariage. » « Tu parles légèrement, mon ami, » répliqua M. Daunet, tandis qu'une larme roulait dans ses yeux au souvenir de sa défunte. Et Fourchambault répéta plusieurs fois de suite en ricanant. « Vous y viendrez vous-même, vous y viendrez. » Sizi protesta. Il aimait mieux se divertir, être régence. Il voulait apprendre la savate pour visiter les tapis francs de la cité, comme le prince Rodolphe des mystères de Paris. Tira de sa poche un brûle-gueule, rudoyait les domestiques, buvait extrêmement, et afin de donner de lui bonne opinion, dénigrait tous les plats. Il renvoyait même les truffes, et le précepteur qui s'en délectait dit par bassesse « Cela ne vaut pas les yeux à la neige de madame votre grand-mère. » Puis, il se remit à causer avec son voisin l'agronome, lequel trouvait au séjour de la campagne beaucoup d'avantages, ne serait-ce que de pouvoir élever ses filles dans des goûts simples. Le précepteur applaudissait à ses idées et le flagornait, lui supposant de l'influence sur son élève, dont il désirait secrètement être l'homme d'affaires. Frédéric était venu plein d'humeur contre Sizi. Sa sottise l'avait désarmé, mais ses gestes, sa figure, toute sa personne lui rappelant le dîner du café anglais, l'agaçaient de plus en plus. Et il écoutait les remarques désobligeantes que faisait à demi-voix le cousin Joseph, un brave garçon sans fortune, amateur de chasse et boursier. Sizi, par manière de rire, l'appela voleur plusieurs fois, puis, tout à coup, « Ah, le baron !» Alors, entra un gaillard de 30 ans, qui avait quelque chose de rude dans la physionomie, de souple dans les membres, le chapeau sur l'oreille et une fleur à la boutonnière. C'était l'idéal du vicomte, et il fut ravi de le posséder, et sa présence l'excitant, il tenta même un calembour, car il dit, comme on passait un coq de bruyère, « Voilà le meilleur des caractères de la bruyère !» Ensuite, il adressa à M. de Comin une foule de questions sur des personnes inconnues à la société. Puis, comme saisi d'une idée, « Dites donc, avez-vous pensé à moi ?» L'autre haussa les épaules.
Vous n'avez pas l'âge, mon petit haut. Impossible.
Cécile avait prié de le faire admettre à son club, mais le baron, ayant sans doute pitié de son amour-propre.
Ah, j'oubliais. Mille félicitations pour votre pari, mon cher.
Quel pari?
Celui que vous avez fait, aux courses, d'aller le soir même chez cette dame.
Frédéric éprouva comme la sensation d'un coup de fouet. Il fut calmé tout de suite par la figure décontenancée de Cizi. En effet, la maréchale, dès le lendemain, en était au regret, quand Arnoux, son premier amant, son homme, s'était présenté ce jour-là même. Tous deux avaient fait comprendre au vicomte qu'il gênait, et on l'avait flanqué dehors avec peu de cérémonie. Il eut l'air de ne pas entendre, le baron ajouta. Que devient-elle, cette brave Rose? A-t-elle toujours d'aussi jolies jambes? Prouvant par ce mot qu'il la connaissait intimement. Frédéric fut contrarié de la découverte.
Il n'y a pas de quoi rougir, reprit le baron. C'est une bonne affaire.
Cizi claqua de la langue.
Pouh, pas si bonne.
Ah,
mon Dieu, oui.
D'abord, moi, je ne lui trouve rien d'extraordinaire. Et puis, on en récolte de pareil tant qu'on veut, car enfin, elle est à vendre.
Pas pour tout le monde,
reprit aigrement Frédéric.
Il se croit différent des autres, répliqua Cizi. Quelle farce!
Et un rire parcourut la table. Frédéric sentait les battements de son cœur l'étouffer. Il avala deux verres d'eau, coup sur coup. Mais le baron avait gardé bon souvenir de Rosanette.
Est-ce qu'elle est toujours avec un certain Arnoux?
Je n'en sais rien, dit Cizi. Je ne connais pas ce monsieur. Il avança néanmoins que c'était une manière d'escroc.
Un moment!
S'écria Frédéric. Cependant, la chose est certaine. Il a même eu un procès.
Ce n'est pas vrai.
Frédéric se mit à défendre Arnoux. Il garantissait sa probité, finissait par y croire, inventait des chiffres, des preuves. Le vicomte, plein de rancune et qui était gris d'ailleurs, s'entêta dans ses assertions, si bien que Frédéric lui dit gravement « Est-ce pour m'offenser, monsieur ?» Et il le regardait avec des prunelles ardentes comme son cigare.
« Oh, pas du tout. Je vous accorde même qu'il a quelque chose de très bien, sa femme.
Vous la connaissez ?»«
Parbleu, Sophie Arnon, tout le monde connaît ça, vous dites ?»
Cizi, qui s'est élevé, répéta en balbutiant.
« Tout le monde connaît ça.
Taisez-vous.
Ce ne sont pas celles-là que vous fréquentez.
Je m'en flatte. » Frédéric lui lança son assiette au visage. Elle passa comme un éclair par-dessus la table, renversa deux bouteilles, démolit un compotier et se brisant contre le surtout en trois morceaux, frappa le ventre du vicomte. Tous se levèrent pour le retenir. Il se débattait en criant, pris d'une sorte de frénésie. Monsieur Désonnet répétait
« Calmez-vous, voyons, cher enfant. »«
Mais c'est épouvantable !» vociférait le précepteur. Fourchambault, livide comme les prunes, tremblait. Joseph riait aux éclats. Les garçons épongeaient le vin, ramassaient par terre les débris. Et le baron alla fermer la fenêtre, car le tapage, malgré le bruit des voitures, aurait pu s'entendre du boulevard. Comme tout le monde, au moment où l'assiette avait été lancée, parlait à la fois, et il fut impossible de découvrir la raison de cette offense, si c'était à cause d'Arnoux, de Madame Arnoux, de Rosanette ou d'un autre. Ce qu'il y avait de certain, c'était la brutalité inqualifiable de Frédéric, et il se refusa positivement à en témoigner le moindre regret. Monsieur Désonnet tâcha de l'adoucir. Le cousin Joseph, le précepteur, Fourchambault lui-même. Le baron, pendant ce temps-là, réconfortait Cizi, qui, cédant à une faiblesse nerveuse, versait des larmes. Frédéric, au contraire, s'irritait de plus en plus. Et l'on serait resté là jusqu'au jour si le baron n'avait dit pour en finir.
« Le vicomte, monsieur, enverra demain chez vous ses témoins. »«
Votre heure ?»«
À midi, s'il vous plaît. »«
Parfaitement, monsieur. » Frédéric, une fois dehors, respira à plein poumon. Depuis trop longtemps, il contenait son cœur. Il venait de le satisfaire enfin. Il éprouvait comme un orgueil de virilité et une surabondance de forces intimes qui l'enivraient. Il avait besoin de deux témoins. Le premier auquel il songea fut Roginbart, et il se dirigea tout de suite vers un estaminet de la rue Saint-Denis. La devanture était close, mais la lumière brillait à un carreau au-dessus de la porte. Elle s'ouvrit, et il entra en se courbant très bas sous l'auvent. Une chandelle au bord du comptoir éclairait la salle déserte. Tous les tabourets, les pieds en l'air, étaient posés sur les tables. Le maître et la maîtresse, avec leur garçon, soupaient dans l'angle près de la cuisine, et Roginbart, le chapeau sur la tête, partageait le repas et même gênait le garçon, qui était contraint à chaque bouchée de se tourner de côté quelque peu.
Frédéric, lui ayant conté la chose brièvement, réclama son assistance. Le citoyen commença par ne rien répondre. Il roulait des yeux, avait l'air de réfléchir, fit plusieurs tours dans la salle et dit enfin « Oui, volontiers ». Et un sourire homicide le dérida, en apprenant que l'adversaire était un noble. « Nous le ferons marcher tambour battant, soyez tranquille. D'abord, avec l'épée. Mais peut-être, objecta Frédéric, que je n'ai pas le droit. Je vous dis qu'il faut prendre l'épée, » répliqua brutalement le citoyen. « Savez-vous tirer ? » ?»«
Un peu. »
« Ah, un peu. Voilà comme ils sont tous. Ils ont la rage de faire assaut. Qu'est-ce que ça prouve, la salle d'armes ? Écoutez-moi. Tenez-vous bien à distance en vous enfermant toujours dans des cercles et rompez, rompez. C'est permis, fatiguez-le. Puis fendez-vous dessus, franchement, et surtout, pas de malice, pas de coups à la fougère, non. De simples une deux, des dégagements. Tenez, voyez-vous ? En tournant le poignet comme pour ouvrir une serrure. Père Vautier, donnez-moi votre canne. Ah, cela suffit. Il empoigna la baguette qui servait à allumer le gaz, arrondit le bras gauche, plia le droit, et se mit à pousser des bottes contre la cloison. Il frappait du pied, s'animait, feignait même de rencontrer des difficultés tout en criant « Y es-tu, là, y es-tu ?» Et sa silhouette énorme se projetait sur la muraille, avec son chapeau qui semblait toucher au plafond. Le limonadier disait de temps en temps « Bravo, très bien !» Son épouse également l'admirait, quoique émue, et Théodore, un ancien soldat, en restait cloué d'ébahissement, étant, du reste, fanatique de M. Roginbard. Le lendemain, de bonne heure, Frédéric courut au magasin de Dussardier. Après une suite de pièces, toutes remplies d'étoffes garnissant des rayons ou étendues en travers sur les tables, tandis que çà et là des champignons de bois supportaient des châles, il l'aperçut dans une espèce de cage grillée au milieu de registres, écrivant debout sur un pupitre. Le brave garçon lâcha immédiatement sa besogne. Les témoins arrivèrent avant midi. Frédéric, par bon goût, crut devoir ne pas assister à la conférence. Le baron et M. Joseph déclarèrent qu'ils se contenteraient des excuses les plus simples, mais Roginbard, ayant pour principe de ne céder jamais et qui tenait à défendre l'honneur d'Arnoux, Frédéric ne lui avait point parlé d'autre chose, demanda que le vicomte fît des excuses. M. de Comin fut révolté de l'outrecuidance. Le citoyen n'en voulut pas démordre. Toute conciliation devenant impossible, on se battrait. D'autres difficultés surgirent, car le choix des armes légalement appartenait à Sisy, l'offensé. Mais Roginbard soutint que par l'envoi du cartel, il se constituait l'offenseur. Ses témoins se récrièrent qu'un soufflet, cependant, était la plus cruelle des offenses. Le citoyen épilogua sur les mots, un coup n'étant pas un soufflet. Enfin, on décida qu'on s'en rapporterait à des militaires, et les quatre témoins sortirent pour aller consulter des officiers dans une caserne quelconque. Ils s'arrêtèrent à celle du Quai d'Orsay. M. de Comin, ayant abordé deux capitaines, leur exposa la contestation. Les capitaines n'y comprirent goutte, embrouillée qu'elle fut par les phrases incidentes du citoyen. Bref, ils conseillèrent à ces messieurs d'écrire un procès-verbal, après quoi ils décideraient. Alors on se transporta dans un café, et même, pour faire les choses plus discrètement, on désigna Sisy par H et Frédéric par un K. Puis, on retourna à la caserne. Les officiers étaient sortis. Ils reparurent et déclarèrent qu'évidemment le choix des armes appartenait à M. H. Tous s'en revinrent chez Sisy. Roginbard et Dussardier restèrent sur le trottoir. Le vicomte, en apprenant la solution, fut pris d'un si grand trouble qu'il se la fit répéter plusieurs fois. Et quand M. de Comin en vint en prétention de Roginbard, il murmura cependant, n'étant pas loin, en lui-même, d'y obtempérer. Puis, il se laissa choir dans un fauteuil et déclara qu'il ne se battrait pas. « Hein, comment ? » dit le baron. Alors, Sisy s'abandonna à un flux labial désordonné. Il voulait se battre au tromblon, à bout portant, avec un seul pistolet. Ou bien on mettra de l'arsenic dans un verre, qui sera tiré au sort. Ça se fait quelquefois, je l'ai lu. Le baron, peu endurant naturellement, le rudoya. « Ces messieurs attendent votre réponse. C'est indécent à la fin. Que prenez-vous, voyons ? Est-ce l'épée ?» Le vicomte répliqua oui, par un signe de tête, et le rendez-vous fut fixé pour le lendemain à la porte Maillot à 7 heures juste. Dussardier étant contraint de s'en retourner à ses affaires, Roginbard alla prévenir Frédéric. On l'avait laissé toute la journée sans nouvelles. Son impatience était devenue intolérable. « Tant mieux » s'écria-t-il. Le citoyen fut satisfait de sa contenance. « On réclamait de nous des excuses, croyez-vous? Ce n'était rien, un simple mot. Mais je les ai envoyés joliment bouler. Comme je le devais, n'est-ce pas ?»«
Sans doute, » dit Frédéric, tout en songeant qu'il eût mieux fait de choisir un autre témoin.
Puis, quand il fut seul, il se répéta tout haut plusieurs fois. « Je vais me battre. Tiens, je vais me battre, c'est drôle. » Et comme il marchait dans sa chambre, en passant devant sa glace, il s'aperçut qu'il était pâle.
« Est-ce que j'aurais peur ?» Une angoisse abominable le saisit à l'idée d'avoir peur sur le terrain.
« Si j'étais tué, cependant, mon père est mort de la même façon. Oui, je serais tué. » Et tout à coup, il aperçut sa mère, en robe noire. Des images incohérentes se déroulèrent dans sa tête. Sa propre lâcheté l'exaspéra. Il fut pris d'un paroxysme de bravoure, d'une soif carnassière. Un bataillon ne l'eût pas fait reculer. Cette fièvre calmée, il se sentit avec joie inébranlable. Pour se distraire, il se rendit à l'opéra, où l'on donnait un ballet. Il écouta la musique, lorgna les danseuses et but un verre de punch pendant l'entracte. Mais en rentrant chez lui, la vue de son cabinet, de ses meubles, où il se retrouvait peut-être pour la dernière fois, lui causa une faiblesse. Il descendit dans son jardin. Les étoiles brillaient, il les contempla. L'idée de se battre pour une femme le grandissait à ses yeux, l'ennoblissait. Puis, il alla se coucher tranquillement. Il n'en fut pas de même de Sisi. Après le départ du baron, Joseph avait tâché de remonter son moral, et comme le vicomte demeurait froid, « Pourtant, mon brave, si tu préfères en rester là, j'irai le dire. » Sisi n'osa répondre certainement, mais il en voulut à son cousin de ne pas lui rendre ce service sans en parler. Il souhaita que Frédéric, pendant la nuit, mourût d'une attaque d'apoplexie, ou qu'une émeute survenant, il y eut le lendemain assez de barricades pour fermer tous les abords du bois de Boulogne, ou qu'un événement empêcha un des témoins de s'y rendre, car le duel, faute de témoins, manquerait. Il avait envie de se sauver par un train express n'importe où. Il regretta de ne pas savoir la médecine pour prendre quelque chose qui, sans exposer ses jours, ferait croire à sa mort. Il arriva jusqu'à désirer être malade, gravement. Afin d'avoir un conseil, un secours, il envoya chercher M. Désaunay. L'excellent homme était retourné en Saintonge, sur une dépêche lui apprenant l'indisposition d'une de ses filles. Cela parut de mauvais augure à Sisi. Heureusement que M. Vezou, son précepteur, vint le voir. Alors, il s'épancha. « Comment faire, mon Dieu, comment faire ? Moi, à votre place, monsieur le comte, je paierai un fort de la halle pour lui flanquer une raclée. » Il saurait toujours de qui ça vient, reprit Sisi. Et de temps à autre, il poussait un gémissement, puis. Mais est-ce qu'on a le droit de se battre en duel? C'est un reste de barbarie, que voulez-vous? Par complaisance, le pédagogue s'invita lui-même à dîner. Son élève ne mangea rien, et après le repas, sentit le besoin de faire un tour. Il dit en passant devant une église. Si nous entrions un peu pour voir. Monsieur Vezou ne demanda pas mieux, et même lui présenta de l'eau bénite. C'était le mois de Marie. Des fleurs couvraient l'autel, des voix chantaient, l'orgue résonnait. Mais il lui fut impossible de prier, les pompes de la religion lui inspirant des idées de funérailles. Il entendait comme des bourdonnements de De Profundis. Allons-nous-en, je ne me sens pas bien. Ils employèrent toute la nuit à jouer aux cartes. Le vicomte s'efforça de perdre, afin de conjurer la mauvaise chance, ce dont M. Vezou profita. Enfin, au petit jour, Sisi, qui n'en pouvait plus, s'affaissa sur le tapis vert et eut un sommeil plein de songes désagréables. Si le courage, pourtant, consiste à vouloir dominer sa faiblesse, le vicomte fut courageux, car à la vue de ses témoins qui venaient le chercher, il se roidit de toutes ses forces, la vanité lui faisant comprendre qu'une reculade le perdrait. M. de Comin le complimenta sur sa bonne mine. Mais en route, le bercement du fiacre et la chaleur du soleil matinal l'énervèrent. Son énergie était retombée. Il ne distinguait même plus où l'on était. Le baron se divertit à augmenter sa frayeur, en parlant du cadavre et de la manière de le rentrer en ville, clandestinement. Joseph donnait la réplique. Tous deux, jugeant l'affaire ridicule, étaient persuadés qu'elle s'arrangerait. Sisi gardait sa tête sur sa poitrine. Il la releva doucement, et fit observer qu'on n'avait pas pris de médecin.
C'est inutile, dit le baron. Il n'y a pas de danger, alors ? Joseph répliqua d'un ton grave. Espérons-le. Et personne dans la voiture ne parla plus. À 7h10, on arriva devant la porte Maillot. Frédéric et ses témoins s'y trouvaient, habillés de noir tous les trois. Rejabar, au lieu de cravate, avait un col de crin comme un troupier. Et il portait une espèce de longue boîte à violon, spéciale pour ce genre d'aventure. On échangea froidement un salut, puis tous s'enfoncèrent dans le bois de Boulogne, par la route de Madrid, afin d'y trouver une place convenable. Rejabar dit à Frédéric, qui marchait entre lui et Dussardier, « Eh bien, et cette venette, qu'en fait-on ? Si vous avez besoin de quelque chose, ne vous gênez pas, je connais ça. La crainte est naturelle à l'homme. » Puis, à voix basse, « Ne fumez plus, ça amollit. » Frédéric jeta son cigare qui le gênait et continua d'un pied ferme. Le vicomte avançait par derrière, appuyé sur le bras de ses deux témoins. De rares passants les croisaient. Le ciel était bleu et on entendait par moments des lapins bondir. Au détour d'un sentier, une femme en madras causait avec un homme en blouse et dans la grande avenue sous les marronniers, des domestiques en veste de toile promenaient leurs chevaux. Sisy se rappelait les jours heureux où, monté sur son alezan et le lorgnon dans l'œil, il chevauchait à la portière des calèches. Ses souvenirs renforçaient son angoisse. Une soif intolérable le brûlait. La susurration des mouches se confondait avec le battement de ses artères. Ses pieds enfonçaient dans le sable. Il lui semblait qu'il était en train de marcher depuis un temps infini. Les témoins, sans s'arrêter, fouillaient de l'œil les deux bords de la route. On délibéra si l'on irait à la croix Catalan ou sous les murs de Bagatelle. Enfin, on prit à droite, et on s'arrêta dans une espèce de quinconce entre des pins. L'endroit fut choisi de manière à répartir également le niveau du terrain. On marqua les deux places où les adversaires devaient se poser. Puis Rejabar ouvrit sa boîte. Elle contenait, sur un capitonnage de basane rouge, 4 épées charmantes, creuses au milieu, avec des poignées garnies de filigrane. Un rayon lumineux, traversant les feuilles, tomba dessus. Et elles parurent à Sisy briller comme des vipères d'argent sur une mare de sang. Le citoyen fit voir qu'elles étaient de longueur pareille. Il prit la troisième pour lui-même, afin de séparer les combattants, en cas de besoin. Monsieur de Comin tenait une canne. Il y eut un silence. On se regarda. Toutes les figures avaient quelque chose d'effaré ou de cruel. Frédéric avait mis bas sa redingote et son gilet. Joseph aida Sisy à faire de même. Sa cravate étant retirée, on aperçut à son cou une médaille bénite. Cela fit sourire de pitié Rejabar. Alors monsieur de Comin, pour laisser à Frédéric encore un moment de réflexion, tâcha d'élever des chicanes. Il réclama le droit de mettre un gant, celui de saisir l'épée de son adversaire avec la main gauche. Rejabar, qui était pressé, ne s'y refusa pas. Enfin le baron, s'adressant à Frédéric. Tout dépend de vous, monsieur. Il n'y a jamais de déshonneur à reconnaître ses fautes. Dussardier l'approuvait du geste. Le citoyen s'indigna. « Croyez-vous que nous sommes ici pour plumer les canards, fichtres, en garde ?» Les adversaires étaient l'un devant l'autre, leurs témoins de chaque côté. Il cria le signal. « Allons !» Sisy devint effroyablement pâle. Sa lame tremblait par le bout, comme une cravache. Sa tête se renversait, ses bras s'écartèrent. Il tomba sur le dos évanoui. Joseph le releva. Et tout en lui poussant sous les narines un flacon, il le secouait fortement. Le vicomte ouvrit les yeux, puis tout à coup bondit comme un furieux sur son épée. Frédéric avait gardé la sienne, et il l'attendait, l'œil fixe, la main haute. « Arrêtez, arrêtez !» cria une voix qui venait de la route, en même temps que le bruit d'un cheval au galop. Et la capote d'un cabriolet cassait les branches. Un homme penché en dehors agitait un mouchoir et criait toujours « Arrêtez, arrêtez !» Monsieur de Comin, croyant à une intervention de la police, leva sa canne. « Finissez donc, le vicomte saigne !»« Moi ?» dit Sisy. En effet, il s'était, dans sa chute, écorché le pouce de la main gauche. « Mais c'est en tombant !» ajouta le citoyen. Le baron feignit de ne pas entendre. Arnoux avait sauté du cabriolet. « J'arrive trop tard. Non, Dieu soit loué !» Il tenait Frédéric à plein bras, le palpait, lui couvrait le visage de baisers. « Je sais le motif. Vous avez voulu défendre votre vieil ami. C'est bien cela, c'est bien. Jamais je ne l'oublierai, comme vous êtes bon. Ah, cher enfant !» Il le contemplait et versait des larmes, tout en ricanant de bonheur. Le baron se tourna vers Joseph. « Je crois que nous sommes de trop dans cette petite fête de famille. C'est fini, n'est-ce pas, messieurs ? Vicomte, mettez votre bras en écharpe. Tenez, voilà mon foulard. Puis, avec un geste impérieux, « Allons, pas de rancune, cela se doit !» Les deux combattants se serrèrent la main mollement. Le vicomte, M. de Comin et Joseph disparurent d'un côté et Frédéric s'en alla de l'autre avec ses amis. Comme le restaurant de Madrid n'était pas loin, Arnoux proposa de s'y rendre pour boire un verre de bière. « On pourrait même déjeuner, » dit Rejabar. Mais Dussardier n'en ayant pas le loisir, ils se bornèrent à un rafraîchissement dans le jardin.
Tous éprouvaient cette béatitude qui suit les dénouements heureux. Le citoyen, cependant, était fâché qu'on eût interrompu le duel au bon moment.
Arnoux en avait eu connaissance par un nommé Compin, ami de Rejimbard, et dans un élan de cœur, il était accouru pour l'empêcher, croyant du reste en être la cause. Il pria Frédéric de lui fournir là-dessus quelques détails. Frédéric, ému par les preuves de sa tendresse, se fit scrupule d'augmenter son illusion. « De grâce, n'en parlons plus !» Arnoux trouva cette réserve fort délicate, puis, avec sa légèreté ordinaire, passant à une autre idée, « Quoi de neuf, citoyen ?» Ils se mirent à causer traite, échéance. Afin d'être plus commodément, ils allèrent même chuchoter à l'écart sur une autre table. Frédéric distingua ces mots. « Vous allez me souscrire ?»« Oui, mais vous, bien entendu. » »« Je l'ai négocié enfin pour 300. »« Jolie commission, ma foi. » Bref. Il était clair qu'Arnoux tripotait avec le citoyen beaucoup de choses. Frédéric songea à lui rappeler ses 15 000 francs. Mais sa démarche récente interdisait les reproches, même les plus doux. D'ailleurs, il se sentait fatigué. L'endroit n'était pas convenable. Il remit cela un autre jour. Arnoux, assis à l'ombre d'un troène, fumait d'un air hilar. Il leva les yeux vers les portes des cabinets donnant toutes sur le jardin et dit qu'il était venu là, autrefois, bien souvent. Pas seul, sans doute. Répliqua le citoyen. Parbleu. Quel polisson, au fait, un homme marié. Eh bien, et vous donc? Reprit Arnoux. Et avec un sourire indulgent. Je suis même sûr que ce gredin-là possède quelque part une chambre où il reçoit des petites filles. Le citoyen confessa que c'était vrai, par un simple haussement de sourcil. Alors ces deux messieurs exposèrent leur goût. Arnoux préférait maintenant la jeunesse, les ouvrières. Rejavard détestait les mijaurés. Et tenait avant tout au positif. La conclusion, fournie par le marchand de faïence, fut qu'on ne devait pas traiter les femmes sérieusement. Cependant, il aime la sienne, songeait Frédéric en s'en retournant. Et il le trouvait un malhonnête homme. Il lui en voulait de ce duel, comme si c'eût été pour lui qu'il avait, tout à l'heure, risqué sa vie. Mais il était reconnaissant à Dussardier de son dévouement. Le commis, sur ses instances, arrivait bientôt à lui faire une visite tous les jours. Frédéric lui prêtait des livres. Thiers, Dulaure, Barante, les Girondins, de Lamartine. Le brave garçon l'écoutait avec recueillement et acceptait ses opinions comme celles d'un maître. Il arriva un soir tout effaré. Le matin, sur le boulevard, un homme qui courait à perdre haleine s'était heurté contre lui, et l'ayant reconnu pour un ami de Sénégal, lui avait dit « On vient de le prendre, je me sauve !» Rien de plus vrai. Dussardier avait passé la journée aux informations. Sénégal était sous les verrous, comme prévenu d'attentats politiques. Fils d'un contremaître, né à Lyon et ayant eu pour professeur un ancien disciple de Chalier, dès son arrivée à Paris, il s'était fait recevoir de la Société des Familles. Ses habitudes étaient connues, la police le surveillait. Il s'était battu dans l'affaire de mai 1839 et depuis lors, se tenait à l'ombre, mais s'exaltant de plus en plus, fanatique d'Alibo, mêlant ses griefs contre la société à ceux du peuple contre la monarchie, et s'éveillant chaque matin avec l'espoir d'une révolution qui, en 15 jours ou en 1 mois, changerait le monde. Enfin, écœuré par la mollesse de ses frères, furieux des retards qu'on opposait à ses rêves et désespérant de la patrie, il était entré comme chimiste dans le complot des bombes incendiaires. Et on l'avait surpris portant de la poudre qu'il allait essayer à Montmartre, tentative suprême pour établir la République. Dussardier ne la chérissait pas moins, car elle signifiait, croyait-il, affranchissement et bonheur universel. Un jour, à 15 ans, dans la rue Transnonain, devant la boutique d'un épicier, il avait vu des soldats à la baïonnette rouge de sang, avec des cheveux collés à la crosse de leur fusil. Depuis ce temps-là, le gouvernement l'exaspérait comme l'incarnation même de l'injustice. Il confondait un peu les assassins et les gendarmes. Un mouchard valait à ses yeux un parricide. tout le mal répandu sur la terre, il l'attribuait naïvement au pouvoir, et il le haïssait d'une haine essentielle, permanente, qui lui tenait tout le cœur et raffinait sa sensibilité. Les déclamations de Sénécal l'avaient ébloui. Qu'il fût coupable ou non, et sa tentative odieuse, peu importait. Du moment qu'il était la victime de l'autorité, on devait le servir. Les pères le condamneront, certainement. Puis il sera emmené dans une voiture cellulaire comme un galérien, et on l'enfermera au Mont-Saint-Michel, où le gouvernement les fait mourir. Austin est devenu fou. Steuben s'est tué. Pour transférer Barbès dans un cachot, on l'a tiré par les jambes, par les cheveux. On lui piétinait le corps, et sa tête rebondissait à chaque marche tout le long de l'escalier. Quelle abomination, les misérables! Des sanglots de colère l'étouffaient, et il tournait dans la chambre comme pris d'une grande angoisse. « Il faudrait faire quelque chose cependant, voyons. Moi, je ne sais pas. Si nous tâchions de le délivrer, hein? Pendant qu'on le mènera au Luxembourg, on peut se jeter sur l'escorte dans le couloir. Une douzaine d'hommes déterminés, ça passe partout. » Il y avait tant de flammes dans ses yeux que Frédéric en tressaillit. Sénécal lui apparut plus grand qu'il ne croyait. Il se rappela ses souffrances, sa vie austère. Sans avoir pour lui l'enthousiasme de Dussardier, il éprouvait néanmoins cette admiration qu'inspire tout homme se sacrifiant à une idée. Il se disait que s'il l'eût secouru, Sénécal n'en serait pas là, et les deux amis cherchèrent laborieusement quelques combinaisons pour le sauver. Il leur fut impossible de parvenir jusqu'à lui. Frédéric s'enquérait de son sort dans les journaux et pendant 3 semaines fréquenta les cabinets de lecture. Un jour, plusieurs numéros du Flambard lui tombèrent sous la main. L'article de fond, invariablement, était consacré à démolir un homme illustre. Venaient ensuite les nouvelles du monde, les cancans. Puis, on blaguait l'Odéon, Carpentras, la pisciculture, et les condamnait à mort quand ils n'en avaient. La disparition d'un paquebot fournit matière à plaisanterie pendant 1 an. Dans la 3e colonne, un courrier des arts donnait, sous forme d'anecdotes ou de conseils, des réclames de tailleurs, avec des comptes rendus de soirées, des annonces de vente, des analyses d'ouvrages, traitant de la même encre un volume de verre et une paire de bottes. La seule partie sérieuse était la critique des petits théâtres, où l'on s'acharnait sur 2 ou 3 directeurs. Et les intérêts de l'art étaient invoqués à propos des décors des funambules ou d'une amoureuse des délassements. Frédéric allait rejeter tout cela quand ses yeux rencontrèrent un article intitulé « Une poulette entre 3 cocos ». C'était l'histoire de son duel, narré en un style sémillant gaulois. Il se reconnut sans peine car il était désigné par cette plaisanterie, laquelle revenait souvent, un jeune homme du collège de Sens et qui en manque. On le représentait même comme un pauvre diable de provincial, un obscur nigaud, tâchant de frayer avec les grands seigneurs. Quant au vicomte, il avait le beau rôle, d'abord dans le souper, où il s'introduisait de force, ensuite dans le Paris, puisqu'il emmenait la demoiselle et finalement sur le terrain, où il se comportait en gentilhomme. La bravoure de Frédéric n'était pas niée, précisément, mais on faisait comprendre qu'un intermédiaire, le protecteur lui-même, était survenu juste à temps. Le tout se terminait par cette phrase, grosse peut-être, de perfidie. « D'où vient leur tendresse ? Problème. Et comme dit Basile, qui diable est-ce qu'on trompe ici ?» C'était, sans le moindre doute, une vengeance d'Ussonnet contre Frédéric pour son refus des 5 000 francs. Que faire? S'il lui en demandait raison, le bohème protesterait de son innocence, et il n'y gagnerait rien. Le mieux était d'avaler la chose silencieusement. Personne, après tout, ne lisait le Flambard. En sortant du cabinet de lecture, il aperçut du monde devant la boutique d'un marchand de tableaux. On regardait un portrait de femme, avec cette ligne écrite en bas en lettres noires. Mademoiselle Rose Annette Bron, appartenant à M. Frédéric Moreau de Nogent. C'était bien elle, ou à peu près, vue de face, les seins découverts, les cheveux dénoués, et tenant dans ses mains une bourse de velours rouge, tandis que par derrière, un paon avançait son bec sur son épaule, en couvrant la muraille de ses grandes plumes en éventail. Pellerin avait fait cette exhibition pour contraindre Frédéric au paiement, persuadé qu'il était célèbre et que tout Paris, s'animant en sa faveur, allait s'occuper de cette misère. Était-ce une conjuration? Le peintre et le journaliste avaient-ils monté leur coup ensemble? Son duel n'avait rien empêché. Il devenait ridicule, tout le monde se moquait de lui. 3 jours après, à la fin de juin, les actions du Nord ayant fait 15 francs de hausse, comme il en avait acheté 2 000 l'autre mois, il se trouva gagné 30 000 francs. Cette caresse de la fortune lui redonna confiance. Il se dit qu'il n'avait besoin de personne, que tous ses embarras venaient de sa timidité, de ses hésitations. il aurait dû commencer avec la maréchale brutalement, refuser Hussonnet dès le premier jour, ne pas se compromettre avec Pellerin. Et pour montrer que rien ne le gênait, il se rendit chez Madame d'Ambreuse à une de ses soirées ordinaires. Au milieu de l'antichambre, Martinon, qui arrivait en même temps que lui, se retourna. « Comment ? Tu viens ici, toi ?» avec l'air surpris et même contrarié de le voir. « Pourquoi pas ?» Et tout en cherchant la cause d'un tel abord, Frédéric s'avança dans le salon. La lumière était faible, malgré les lampes posées dans les coins, car les trois fenêtres, grandes ouvertes, dressaient parallèlement trois larges carrés d'ombre noire. Des jardinières, sous les tableaux, occupaient jusqu'à hauteur d'homme les intervalles de la muraille, et une théière d'argent avec un samovar se mirait au fond dans une glace. Un murmure de voix discrète s'élevait. On entendait des escarpins craquer sur le tapis. Il distingua des habits noirs, puis une table ronde éclairée par un grand tabac-jour. 7 ou 8 femmes en toilette d'été, et un peu plus loin, Madame d'Ambreuse dans un fauteuil à bascule. Sa robe de taffetas lilas avait des manches à crever, d'où s'échappaient des bouillons de mousseline, le ton doux de l'étoffe se mariant à la nuance de ses cheveux, et elle se tenait quelque peu renversée en arrière avec le bout de son pied sur un coussin, tranquille comme une œuvre d'art pleine de délicatesse, une fleur de haute culture. Monsieur d'Ambreuse et un vieillard à la chevelure blanche se promenaient dans toute la longueur du salon. Quelques-uns s'entretenaient au bord des petits divans, çà et là, les autres, debout, formaient un cercle au milieu. Ils causaient de votes, d'amendements, de sous-amendements, du discours de M. Grandin, de la réplique de M. Benoît. Le tiers-parti décidément allait trop loin. Le centre-gauche aurait dû se souvenir un peu mieux de ses origines. Le ministère avait reçu de graves atteintes. Ce qui devait rassurer pourtant, c'est qu'on ne lui voyait point de successeur. Bref, la situation était complètement analogue à celle de 1834. Comme ces choses ennuyaient Frédéric, il se rapprocha des femmes. Martinon était près d'elle, debout, le chapeau sous le bras, la figure de trois quarts, et si convenable, qu'il ressemblait à de la porcelaine de Sèvres. Il prit une revue des deux mondes traînant sur la table, entre une imitation et un annuaire de Gotha, et jugea de haut un poète illustre, dit qu'il allait aux conférences de Saint-François, se plaignit de son larynx, avalait de temps à autre une boule de gomme, et cependant, par les musiques, faisait le léger. Mademoiselle Cécile, la nièce de M. d'Ambreuse, qui se brodait une paire de manchettes, le regardait en dessous, avec ses prunelles d'un bleu pâle. Et Miss John, l'institutrice à nez camus, en avait lâché sa tapisserie. Toutes deux paraissaient s'écrier intérieurement « qu'il est beau ». Madame d'Ambreuse se tourna vers lui. « Donnez-moi donc mon éventail, qui est sur cette console là-bas. Vous vous trompez, l'autre !» Elle se leva. Et comme il revenait, ils se rencontrèrent au milieu du salon, face à face. Elle lui adressa quelques mots, vivement, des reproches sans doute, en jugé par l'expression altière de sa figure. Martinon tâchait de sourire. Puis il alla se mêler au conciliabule des hommes sérieux. Madame d'Ambreuse reprit sa place, et se penchant sur le bras de son fauteuil, elle dit à Frédéric « J'ai vu quelqu'un avant-hier qui m'a parlé de vous, monsieur de Sisy. Vous le connaissez, n'est-ce pas ?»« Oui, un peu. » Tout à coup, Madame d'Ambreuse s'écria « Duchesse, ah, quel bonheur !» Et elle s'avança jusqu'à la porte, au-devant d'une vieille petite dame, qui avait une robe de taffetas carmélite et un bonnet de guipure à longues pattes, fille d'un compagnon d'exil du comte d'Artois et veuve d'un maréchal de l'Empire créé pair de France en 1830. Elle tenait à l'ancienne cour comme à la nouvelle et pouvait obtenir beaucoup de choses. Ceux qui causaient debout s'écartèrent, puis reprirent leur discussion. Maintenant, elle roulait sur le paupérisme, dont toutes les peintures, d'après ces messieurs, étaient fort exagérées. « Cependant, objecta Martinon, la misère existe, avouons-le. Mais le remède ne dépend ni de la science ni du pouvoir. C'est une question purement individuelle. Quand les basses classes voudront se débarrasser de leurs vices, elles s'affranchiront de leurs besoins. Que le peuple soit plus moral, et il sera moins pauvre. » Suivant M. d'Ambreuse, on n'arriverait à rien de bien sans une surabondance du capital. Donc, le seul moyen possible était de confier, comme le voulaient du reste les Saint-Simoniens, mon Dieu, ils avaient du bon, soyons justes envers tout le monde, de confier, dis-je, la cause du progrès à ceux qui peuvent accroître la fortune publique. Insensiblement, on aborda les grandes exploitations industrielles, les chemins de fer, la houille, et M. d'Ambreuse, s'adressant à Frédéric, lui dit tout bas, « Vous n'êtes pas venu pour notre affaire. » Frédéric allégua une maladie, mais sentant que l'excuse était trop bête. « D'ailleurs, j'ai eu besoin de mes fonds. Pour acheter une voiture ?» reprit Madame d'Ambreuse, qui passait près de lui une tasse de thé à la main. Et elle le considéra pendant une minute, la tête un peu tournée sur son épaule. Elle le croyait l'amant de Rosanette. L'allusion était claire. Il sembla même à Frédéric que toutes les dames le regardaient de loin, en chuchotant. Pour mieux voir ce qu'elle pensait, il se rapprocha d'elle encore une fois. De l'autre côté de la table, Martinon, auprès de Mademoiselle Cécile, feuilletait un album. C'était des lithographies représentant des costumes espagnols. Il lisait tout haut les légendes. Femme de Séville, jardinier de Valence, picador andalou. Et descendant une fois jusqu'au bas de la page, il continua d'une haleine. Jacques Arnoux, éditeur. Un de tes amis, hein ?
C'est vrai, dit Frédéric, blessé par son air.
Madame d'Ambreuse reprit.
En effet, vous êtes venu un matin. Pour une maison, je crois ?
Oui, une maison appartenant à sa femme.
Cela signifiait, c'est votre maîtresse.
Il rougit jusqu'aux oreilles, et M. d'Ambreuse, qui arrivait au même moment, ajouta,
« Vous paraissiez même vous intéresser beaucoup à eux. »
Ces derniers mots achevèrent de décontenancer Frédéric. Son trouble, que l'on voyait, pensait-il, allait confirmer les soupçons, quand M. d'Ambreuse lui dit de plus près, d'un ton grave, « Vous ne faites pas d'affaires ensemble, je suppose. » Il protesta par des secousses de tête multipliées, sans comprendre l'intention du capitaliste qui voulait lui donner un conseil. Il avait envie de partir. La peur de sembler lâche le retint. Un domestique enlevait les tasses de thé. Madame d'Ambreuse causait avec un diplomate en habit bleu. Deux jeunes filles, rapprochant leurs fronts, se faisaient voir une bague. Les autres, assises en demi-cercle sur des fauteuils, remuaient doucement leur blanc visage, bordé de chevelures noires ou blondes. Personne ne s'occupait de lui. Frédéric tourna les talons, et par une suite de longs zigzags, il avait presque gagné la porte, quand, passant près d'une console, il remarqua dessus, entre un vase de chine et la boiserie, un journal plié en deux. Il le tira quelque peu et lut ces mots, le flambard. Qui l'avait apporté ?
Sisi, pas un autre, évidemment.
Qu'importait, du reste ?
Ils allaient croire, tous déjà croyaient peut-être à l'article. Pourquoi cet acharnement ?
Une ironie silencieuse l'enveloppait. Il se sentait comme perdu dans un désert. Mais la voix de Martinon s'éleva.
« À propos d'Arnoux, j'ai lu parmi les prévenus des bombes incendiaires le nom d'un de ses employés, Sénécal. Est-ce le nôtre ?»«
Lui-même, » dit Frédéric. Martinon répéta, criant très haut.
« Comment ? Notre Sénécal ? Notre Sénécal ?»
Alors on le questionna sur le complot. Sa place d'attaché au parquet devait lui fournir des renseignements. Il confessa n'en pas avoir. Du reste, il connaissait fort peu le personnage. L'ayant vu deux ou trois fois seulement, il le tenait en définitive pour un assez mauvais drôle. Frédéric, indigné, s'écria « Pas du tout, c'est un très honnête garçon. » «
Cependant, monsieur, dit un propriétaire, on n'est pas honnête quand on conspire. »
La plupart des hommes qui étaient là avaient servi au moins quatre gouvernements. Et ils auraient vendu la France ou le genre humain pour garantir leur fortune, s'épargner un malaise, un embarras ou même par simple bassesse, adoration instinctive de la force. Tous déclarèrent les crimes politiques inexcusables. Il fallait plutôt pardonner à ceux qui provenaient du besoin. Et on ne manqua pas de mettre en avant l'éternel exemple du père de famille volant l'éternel morceau de pain chez l'éternel boulanger. Un administrateur s'écria même « Moi, monsieur, si j'apprenais que mon frère conspire, je le dénoncerais. »
Frédéric invoqua le droit de résistance. Et se rappelant quelques phrases que lui avait dites Des Lauriers, il cita De Zolm, Blackstone, le Bill des droits en Angleterre et l'article 2 de la Constitution de 91. C'était même en vertu de ce droit-là qu'on avait proclamé la déchéance de Napoléon. Il avait été reconnu en 1830, inscrit en tête de la charte.
D'ailleurs, quand le souverain manque au contrat, la justice veut qu'on le renverse.
Mais c'est abominable, exclama la femme d'un préfet.
Toutes les autres se taisaient, vaguement épouvantées, comme si elles eussent entendu le bruit des balles. Madame d'Ambreuse se balançait dans son fauteuil et l'écoutait parler en souriant. Un industriel, ancien Carbonaro, tâcha de lui démontrer que les d'Orléans étaient une belle famille. Sans doute, il y avait des abus.
Eh bien, alors ?
Mais on ne doit pas les dire, cher monsieur.
Si vous saviez comme toutes ces criailleries de l'opposition nuisent aux affaires.
Je me moque des affaires, reprit Frédéric. La pourriture de ces vieux l'exaspérait.
et emporté par la bravoure qui saisit quelquefois les plus timides, il attaqua les financiers, les députés, le gouvernement, le roi, prit la défense des Arabes, débitait beaucoup de sottises. Quelques-uns l'encourageaient ironiquement. « Allez donc, continuez !» Tandis que d'autres murmuraient « Diable, quelle exaltation !» Enfin, il jugea convenable de se retirer, et comme il s'en allait, M. d'Ambreuse lui dit, faisant allusion à la place de secrétaire, « Rien n'est terminé encore, mais dépêchez-vous. » Et Mme d'Ambreuse, « À bientôt, n'est-ce pas ?» Frédéric jugea leur adieu une dernière moquerie. Il était déterminé à ne jamais revenir dans cette maison, à ne plus fréquenter tous ces gens-là. Il croyait les avoir blessés, ne sachant pas quel large fond d'indifférence le monde possède. Ses femmes, surtout, l'indignaient. Pas une qui l'eût soutenu, même du regard. Il leur en voulait de ne pas les avoir émus. Quant à Mme d'Ambreuse, il lui trouvait quelque chose à la fois de langoureux et de sec qui empêchait de la définir par une formule. Avait-elle un amant? Quel amant? Était-ce le diplomate ou un autre? Martinon, peut-être? Impossible. Cependant, il éprouvait une espèce de jalousie contre lui et envers elle une malveillance inexplicable. Dussardier, venu ce soir-là comme d'habitude, l'attendait. Frédéric avait le cœur gonflé. Il le dégorgea, et ses griefs, bien que vagues et difficiles à comprendre, attristèrent le brave commis. Il se plaignait même de son isolement. Dussardier, en hésitant un peu, proposa de se rendre chez Deslauriers. Frédéric, au nom de l'avocat, fut pris par un besoin extrême de le revoir. Sa solitude intellectuelle était profonde, et la compagnie de Dussardier insuffisante. Il lui répondit d'arranger les choses comme il voudrait. Deslauriers, également, sentait depuis leur brouille une privation dans sa vie. Il céda sans peine à des avances cordiales. Tous deux s'embrassèrent, puis se mirent à causer de choses indifférentes. La réserve de Deslauriers attendrit Frédéric, et pour lui faire une sorte de réparation, il lui conta le lendemain sa perte de 15 000 francs, sans dire que ces 15 000 francs lui étaient primitivement destinés. L'avocat n'en douta pas néanmoins. Cette mésaventure, qui lui donnait raison dans ses préjugés contre Arnoux, désarma tout à fait sa rancune, et il ne parla point de l'ancienne promesse. Frédéric, trompé par son silence, crut qu'il l'avait oublié. Quelques jours après, il lui demanda s'il n'existait pas de moyen de rentrer dans ses fonds. On pouvait discuter les hypothèques précédentes, attaquer Arnoux comme stélionataire, faire des poursuites au domicile contre la femme. « Non, non, pas contre elle !» s'écria Frédéric. Et cédant aux questions de l'ancien clerc, il avoua la vérité. Deslauriers fut convaincu qu'il ne la disait pas complètement, par délicatesse, sans doute. Ce défaut de confiance le blessa.
Ils étaient cependant aussi liés qu'autrefois, et même, ils avaient tant de plaisir à se trouver ensemble que la présence de Dussardier les gênait. Sous prétexte de rendez-vous, ils arrivèrent à s'en débarrasser peu à peu. Il y a des hommes n'ayant pour mission parmi les autres que de servir d'intermédiaires. On les franchit comme des ponts et l'on va plus loin. Frédéric ne cachait rien à son ancien ami. Il lui dit l'affaire des Houys avec la proposition de M. d'Ambreuse. L'avocat devint rêveur. C'est drôle. Il faudrait pour cette place quelqu'un d'assez fort en droit. Mais tu pourrais m'aider, reprit Frédéric.
« Oui, tiens, parbleu. Certainement. »
Dans la même semaine, il lui montra une lettre de sa mère. Madame Moreau s'accusait d'avoir mal jugé M. Rock, lequel avait donné de sa conduite des explications satisfaisantes. Puis elle lui parlait de sa fortune et la possibilité, pour plus tard, d'un mariage avec Louise. « Ce ne serait peut-être pas bête, » dit Deslauriers. Frédéric s'en rejeta loin. Le père Rock, d'ailleurs, était un vieux filou. Cela n'y faisait rien, selon l'avocat. À la fin de juillet, une baisse inexplicable fit tomber les actions du Nord. Frédéric n'avait pas vendu les siennes. Il perdit d'un seul coup 60 000 francs. Ses revenus se trouvaient sensiblement diminués. Il devait ou restreindre sa dépense, ou prendre un état, ou faire un beau mariage. Alors Deslauriers lui parla de Mademoiselle Rock. Rien ne l'empêchait d'aller voir un peu les choses par lui-même. Frédéric était un peu fatigué. La province et la maison maternelle le délasseraient. Il partit. L'aspect des rues de Nogent, qu'il monta sous le clair de la lune, le reporta dans de vieux souvenirs. Il éprouvait une sorte d'angoisse, comme ceux qui reviennent après de longs voyages. Il y avait chez sa mère tous les habitués d'autrefois, messieurs Gamblin, Eudra et Chambrinon,
la famille Lebrun, ses demoiselles Auger, de plus, le père Roch, et en face de Madame Moreau, devant une table de jeu, Mademoiselle Louise. C'était une femme à présent. Elle se leva, en poussant un cri. Tous s'agitèrent. Elle était restée immobile, debout, et les quatre flambeaux d'argent posés sur la table augmentaient sa pâleur. Quand elle se remit à jouer, sa main tremblait. Cette émotion flatta démesurément Frédéric, dont l'orgueil était malade. Il se dit « Tu m'aimeras, toi ». Et prenant sa revanche des déboires qu'il avait essuyés là-bas, il se mit à faire le Parisien, le Lion, donna des nouvelles des théâtres, rapporta des anecdotes du monde, puisé dans les petits journaux, enfin éblouit ses compatriotes. Le lendemain, Madame Moreau s'étendit sur les qualités de Louise, puis énuméra les bois, les fermes qu'elle posséderait. La fortune de M. Roch était considérable. Il l'avait acquise en faisant des placements pour M. d'Ambreuse, car il prêtait à des personnes pouvant offrir de bonnes garanties hypothécaires, ce qui lui permettait de demander des suppléments ou des commissions. Le capital, grâce à une surveillance active, ne risquait rien. D'ailleurs, le père Roch n'hésitait jamais devant une saisie. Puis, il rachetait à bas prix les biens hypothéqués, et M. d'Ambreuse, voyant ainsi rentrer ses fonds, trouvait ses affaires très bien faites. Mais cette manipulation extra-légale le compromettait vis-à-vis de son régisseur. Il n'avait rien à lui refuser. C'était sur ses instances qu'il avait si bien accueilli Frédéric. En effet, le père Roch couvait au fond de son âme une ambition. Il voulait que sa fille fût comtesse, et pour y parvenir, sans mettre en jeu le bonheur de son enfant, il ne connaissait pas d'autre jeune homme que celui-là. Par la protection de M. d'Ambreuse, on lui ferait avoir le titre de son aïeul. Madame Moreau étant la fille d'un comte de Fouvin, apparentée d'ailleurs aux plus vieilles familles champenoises, les Lavernades, les Détrigny. Quant aux Moreau, une inscription gothique, près des moulins de Villeneuve-l'Archevêque, parlait d'un Jacob Moreau qui les avait réédifiés en 1596, et la tombe de son fils, Pierre Moreau, premier écuyer du roi sous Louis XI, se voyait dans la chapelle Saint-Nicolas. Tant d'honorabilité fascinait M. Roch, fils d'un ancien domestique. Si la couronne comtale ne venait pas, il s'en consolerait sur autre chose, car Frédéric pouvait parvenir à la députation quand M. d'Ambreuse serait élevé à la pairie, et alors l'aider dans ses affaires, lui obtenir des fournitures, des concessions. Le jeune homme lui plaisait personnellement. Enfin, il le voulait pour gendre, parce que depuis longtemps, il s'était féru de cette idée qui ne faisait que s'accroître. Maintenant, il fréquentait l'église, et il avait séduit Madame Moreau par l'espoir du titre surtout. Elle s'était gardée cependant de faire une réponse décisive. Donc, 8 jours après, sans qu'aucun engagement eût été pris, Frédéric passait pour le futur de Mademoiselle Louise, et le père Roch, peu scrupuleux, les laissait ensemble quelquefois.